Musique juive d'hier et d'aujourd'hui. Une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Rotten sur Judaïk FM.
Sugar.
I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission radiophonique de l'Institut européen des musiques juives. Notre objectif, vous faire découvrir chaque mois la richesse et la diversité des musiques juives d'hier mais aussi d'aujourd'hui. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir le pianiste David Bismuth qui, avec la violoncelliste Sarah Yankou, vient de sortir aux éditions de l'IEMJ un disque absolument magnifique qui s'intitule Mélodie hébraïque pour violoncelle et piano. David Bismuth, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je vais vous présenter, c'est la coutume en quelques mots, mais vous êtes libre d'en rajouter. Mais quand on voit votre CV, on est tout de suite assez ébahi, donc j'ai raccourci. Déjà, vous avez intégré le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris à l'âge de 14 ans. Vous avez obtenu plusieurs prix, je crois.
C'est ça, piano, musique de chambre.
Voilà, et vous vous produisez évidemment régulièrement en France, notamment avec l'Orchestre de Paris, l'Orchestre National de France, il y en a d'autres encore, le Capitole de Toulouse, mais également dans le monde entier. Vous revenez d'une tournée en Russie, je crois que vous avez effectué des masterclass.
C'est ça, c'était une tournée de masterclass, entre guillemets. C'est-à-dire que je suis allé dans plusieurs villes de Russie pour donner des cours dans les conservatoires de trois des principales villes. Et ça, c'est un grand bonheur parce que la musique et le piano particulièrement en Russie ont une place vraiment importante. Et l'investissement des professeurs et de leurs étudiants est toujours très touchant. Donc voilà, à la fois, eux sont contents d'avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur pour donner des conseils et avoir un regard un peu neuf, et moi je suis très content d'y aller parce que c'est toujours une réactivité qui est très grande et c'est très interactif et
satisfaisant, j'imagine.
Et satisfaisant vraiment, oui.
Alors, vous avez été désigné par le magazine Pianiste comme l'un des 10 pianistes français les plus prometteurs de votre génération, c'est dire votre talent. Je vais me permettre de dire également quelques mots sur votre acolyte Sarah Yankou, qui est violoncelliste solo à l'orchestre du Capitole de Toulouse. Elle n'a malheureusement pas pu se déplacer ce soir puisqu'elle habite, comme vous l'avez compris, dans la région de Toulouse.
Oui.
Alors, elle est également titulaire de plusieurs prix au Conservatoire National de Musique de Paris, notamment dans les classes de violoncelle et de musique de chambre. Vous êtes connu peut-être là-bas, d'ailleurs.
Par l'intermédiaire de l'Orchestre du Capitole de Toulouse, absolument. Absolument. Il se trouve que j'y ai joué quelques fois, et Sarah était violoncelle solo depuis maintenant beaucoup d'années, donc on a fait connaissance à Toulouse.
Donc Sarah, pour en revenir à elle, elle est aussi lauréate de plusieurs concours internationaux importants. On ne peut pas tous les citer, mais on citera notamment le prix du Fonds instrumental français du concours international Rostropovitch, c'est quand même un nom. Et puis d'autres encore, comme le premier prix Valentino Bucchi de Rome ou le premier prix des jeunesses musicales Romania de Bucarest. Et elle, c'est en fait le monde de la musique qui l'a désignée récemment comme l'une des meilleures violoncellistes de sa génération.
Ah bah donc on a été fait pour jouer ensemble alors.
Absolument. Et signalons enfin que la famille Yankou n'est pas inconnue dans le milieu juif, mais pas uniquement juif, universitaire, puisque le père de Sarah Yankou, Carole Yankou, est un historien réputé qui enseigne à l'université de Montpellier. Sa mère, Danielle Yankou Agou, est elle aussi historienne et directeur de recherche au CNRS et spécialiste, je dirais, de la période médiévale et des juifs à l'époque médiévale. Quant à son frère, Michael Yankou, il ne dirige ni plus ni moins l'Institut Maïmonide de Montpellier. Donc on imagine bien qu'avec une telle famille, Sarah a développé depuis sa plus tendre jeunesse un attrait pour la culture juive et ses musiques. Alors, avant de parler trop, vous savez, la règle dans cette émission, c'est toujours quand même d'entendre la musique.
On est
là pour ça.
C'est l'essentiel.
Voilà, donc avant de parler de votre CD plus en amont, je vous propose d'écouter un premier extrait de celui-ci. Il s'agit du Kaddish de Maurice Ravel, une œuvre universellement connue, donc extrait d'un cycle intitulé « Deux mélodies hébraïques ».
Thank you.
Un extrait du Kaddish, le célèbre Kaddish de Maurice Ravel, interprété ici donc par Sarah Yonko au violoncelle, David Bismuth au piano, extrait donc du CD qui vient de paraître aux éditions DMJ, Mélodie hébraïque pour violoncelle et piano. Alors j'ai le plaisir d'avoir donc David Bismuth ce soir dans ce studio, et donc David, vous souhaitez dire quelques mots je crois sur ce Kaddish de Ravel.
Je peux en dire quelques mots déjà parce que c'est une œuvre qui me touche énormément. Je trouve que c'est une œuvre merveilleuse et c'est une des œuvres les plus poignantes on va dire peut-être de ce CD. Et cette œuvre, à mon avis, est un tour de force parce que, en fait, la mélodie existait déjà avant Maurice Ravel. Maurice Ravel n'est pas l'auteur de la mélodie, c'est-à-dire que c'est déjà un chant qui existait bien avant. Ravel s'est contenté d'écrire l'accompagnement. Et ce qui est incroyable, c'est que l'accompagnement se marie merveilleusement bien avec cette mélodie. Donc, on pourrait croire qu'il est d'origine, tellement ça va naturellement ensemble, tellement ça restitue l'esprit de la pièce. Mais en même temps, on reconnaît tout de suite que c'est du Ravel également. Il y a quand même une couleur sonore dans les harmonies et la composition qui fait qu'on reconnaît vraiment sa patte, mais en même temps ça se fond dans cet univers qui reste très touchant. Alors c'est une œuvre qui est une mélodie, donc comme vous l'avez dit, donc c'est une œuvre qui est écrite pour la voix à l'origine, et comme plusieurs pièces sur ce CD, Sarah Yonko, donc la violoncelliste, a emprunté à la voix certaines des pièces qu'elle a choisi de jouer à l'instrument. Moi, je trouve que la plupart du temps cette adaptation fonctionne très bien parce que le violoncelle a un timbre
très proche de la voix.
Qui reste très proche de la voix humaine, et puis en plus Sarah le fait chanter magnifiquement, mais à l'origine c'est une mélodie avec des paroles, donc là cette fois-ci on a juste le...
Et qui fait partie d'un cycle en fait de deux mélodies, la deuxième mélodie s'appelant l'énigme éternelle, ou en yiddish dit Alt et Caché. Et mélodie qui a été composée, ces deux mélodies, en 1914, dans la maison de Ravel d'ailleurs à Saint-Jean-de-Luz, et créée donc par la commanditaire de l'œuvre, qui était une soprano de l'opéra de Saint-Pétersbourg, qui s'appelait Alvina Alvi. Elle était accompagnée d'ailleurs au piano par Ravel lui-même. Et on pense souvent d'ailleurs, vous savez que Ravel, on pense à tort d'ailleurs, que Ravel était juif. Il ne le démentait pas, paraît-il, quand on lui demandait.
En fait,
il était certainement philosémite, mais plus globalement, il a écrit trois mélodies juives en tout et pour tout, hein, Ravel. Donc ce fameux Kaddish, avec l'énigme éternelle, donc issu de ce cycle de deux mélodies, et une chanson yiddish qui s'appelle « Meyer que mein Sohn », qui est issue d'un cycle plus grand de sept chansons populaires, en fait. Et donc Ravel était très attiré par les musiques populaires, en fait. C'est un courant qui est né d'ailleurs avant Ravel lui-même, puisque dès 1850, on constate en Europe un intérêt pour les musiques populaires et exotiques. Et ce qui est né, en fait, qui découle d'ailleurs du romantisme, hein, c'est presque une suite naturelle. En plus, c'est l'époque où il y a toutes les expositions universelles, on découvre le monde.
Oui, c'est plutôt le monde qui vient, en fait, qui vient à Paris ou qui vient en France à travers l'exposition.
Tout à fait.
Parce que beaucoup des compositeurs français de l'époque avaient assez peu voyagé. Et donc, grâce à ces expositions, ils avaient les cultures et les folklores de plein de pays très éloignés dont ils se sont inspirés pour leur musique. Et ce qui est fou, c'est que quand on écoute ces musiques, on a l'impression que les compositeurs y sont allés. Et en fait, pas du tout, ils en ont capté vraiment l'essence à travers soit un tableau, soit une sculpture, soit une ambiance qu'ils avaient perçue. Debussy aussi a beaucoup fait ça, et on sait que Debussy n'a quasiment jamais quitté la France, et pourtant il a écrit beaucoup de choses d'inspiration japonaise ou d'inspiration asiatique ou orientale. Et voilà, c'est vraiment avec leur imaginaire qu'ils sont arrivés à voyager.
Et c'était lié évidemment au développement de l'ère industrielle, c'est-à-dire qu'avec la création des trains, on pouvait voyager beaucoup plus facilement dans le monde. Ouais. Enfin voilà, c'est toute une époque. Ça se passe à partir du 19e siècle et ce courant va continuer à s'amplifier, ce qui explique que d'ailleurs beaucoup d'œuvres de votre disque sont issues de cette période-là, à part peut-être quelques œuvres de Alcan, Charles-Valentin Alcan, qui sont un peu antérieures, mais beaucoup d'œuvres s'inscrivent dans cette période de découverte de musique populaire et, dont on va parler. Alors, on va entendre surtout une seconde mélodie maintenant d'un compositeur qui est moins connu évidemment que Ravel, il s'agit de Léon Algazi. Alors, Léon Algazi est peut-être plus connu en France, et encore, d'abord, il est d'origine roumaine, il est mort à Paris en 1971, et il a une originalité, il a une double formation. Il a à la fois une formation religieuse, puisqu'il a obtenu un diplôme de rabbin en 1922 au séminaire israélite de France, donc à Paris, mais également musical, puisque après son diplôme de rabbin, il s'est installé à Vienne, il est devenu le chef d'orchestre du théâtre juif, il avait étudié la composition musicale avec Arnold Schoenberg et Hans Eisler, donc ça, tout ça c'est des grands compositeurs, et puis il est revenu en France, il a été admis à ce moment-là au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, où il a travaillé donc dans les classes de contrepoint et fugue, notamment avec André Guédal, Jean Fugue, et il a travaillé également la composition avec Raoul Lapara et Charles Koechlin. Et en 1929, il crée l'émission radiophonique La Voix d'Israël. Il est très attaché à son judaïsme de par sa double formation, j'allais dire théologique et musicale. En 1936 ou 1937, il devient chef de chœur de la Grande Synagogue de la Victoire, avant d'être nommé directeur de la musique des temples consistoriaux en 1961. Alors, c'est un travailleur absolument acharné, il a accompli un nombre de choses incroyables, c'était à la fois un intellectuel, un musicien, un compositeur, et il lègue à la postérité une œuvre qui est malheureusement encore peu connue, mais parmi lesquelles on compte de nombreuses compositions au caractère liturgique ou folklorique, tel le service sacré, qui est composé à New York en 1952, des suites orchestrales, des psaumes, des harmonisations de chants traditionnels. Et également, il a publié une collection de chants séfardis à Londres en 1958. Et vous avez été dénicher une petite pièce qui est un véritable bijou, qui est une adaptation d'une chanson yiddish qui s'intitule « Zeit gesund ». On l'écoute de suite. Zeit gesund de Léon Algazi. Alors Zeit gesund, ça veut dire en fait soyez en bonne santé, mais dans ce cadre-là, ça veut dire adieu en fait, comme on dit adieu dans le sens en bonne santé, quoi.
Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et puis c'est ce que traduit un peu la pièce. Je trouve que c'est une pièce à la fois touchante et assez légère, c'est-à-dire bon, elle est déjà très brève. Et contrairement à beaucoup d'autres pièces qui figurent sur le CD, qui sont un peu chargées de sens et un peu lourdes, celle-ci. Celle-ci a un parfum de nostalgie, mais quand même, c'est quelque chose qui passe et qui reste, oui, c'est comme un au revoir, un peu comme quelque chose qui reste assez léger. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a l'impression que cette pièce ne fait que passer, en fait, et elle reste quand même très touchante. Et c'est un peu une respiration sur ce disque.
Est-ce que vous connaissiez Léon Algazi?
Pas du tout. Ça, c'est vraiment Sarah qui a découvert la partition et qui m'a fait découvrir le compositeur. J'avoue que je ne connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout avant.
Alors, non. On va pas crier cocorico, mais un peu quand même, puisqu'on est sur l'émission de l'Institut européen des musiques juives. Et Sarah a découvert en fait cette partition dans les archives de l'Institut européen des musiques juives.
Il me semble. Oui. Sarah a beaucoup cherché pour faire un bouquet de pièces, à la fois avec des compositeurs du répertoire comme Maurice Ravel qu'on a entendu précédemment, et à la fois avec des compositeurs qu'il faut aller chercher parce qu'ils ne sont pas forcément joués tous les jours. Donc c'est vraiment à Sarah que revient tout le mérite d'avoir cherché pour découvrir les pièces les plus emblématiques et les plus intéressantes de ce répertoire qui méritait de figurer dans cette composition un peu générale.
Mais alors, comment vous est venue l'idée de réaliser ce disque tous les deux? Parce que bon, même si Sarah a cherché, je suppose que vous avez quand même également regardé, mais comment ça s'est passé la naissance de ce...
Au départ, il y a déjà une collaboration musicale de longue date avec Sarah, et je pense que ça a commencé par des pièces du répertoire, entre guillemets, qui était à caractère hébraïque. Je pense aux trois pièces de Ernest Bloch qu'on va peut-être entendre dans la suite de l'émission, qui sont extraites qui sont en fait un cycle qui s'appelle From Jewish Life. Donc, certaines de ces pièces ont vraiment intégré le répertoire classique de façon très très courante et dans le monde entier. Donc, je pense qu'on est parti de ces pièces en se disant, mais ce serait intéressant de faire un projet autour de ces pièces majeures et puis de compléter par un côté inédit en fait et un côté découverte avec des compositeurs et des pièces qui seraient pour l'instant dans les bibliothèques et dans les instituts et qu'on n'aurait pas forcément l'occasion de jouer souvent. Et cette idée est vraiment née comme ça. Et après, j'avoue que c'est Sarah qui a fait l'essentiel du travail de recherche. Après, on lisait les œuvres ensemble et on voyait ce qui était vraiment nécessaire, ce qui était utile de garder ou pas. Et le choix était difficile parce qu'il y avait quand même beaucoup beaucoup de pièces et il fallait rester dans le minutage d'un CD traditionnel, mais il y aurait eu de quoi en faire quand même encore beaucoup plus.
Et ben peut-être dans un deuxième volume, voilà, parce que ce CD comporte pas moins de 30 mélodies, donc c'est dense hein, quand
c'est
même,
dense, oui.
Inspiré donc de thèmes liturgiques, racidiques, yiddish et même judéo-espagnol, on en écoutera à la fin, et on va écouter un troisième extrait. Une courte pièce, en fait, qui s'appelle Margaret Lair, qui veut dire les Marguerites, écrite par Victor Ullmann. On en parlera après dans des circonstances absolument tragiques. Mais cette air est devenue aujourd'hui une des chansons populaires les plus connues en Israël. Alors on l'écoute de suite. Margaret Lair de Victor Ullmann, toujours extrait du CD Mélodie hébraïque pour violoncelle et piano, interprété par David Bismuth et Sarah Yankou. Alors David Bismuth, on a dit qu'on allait dire quelques mots de Victor Ullmann, qui a eu un destin tragique. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus?
Particulièrement mais c'est, par rapport à cette pièce, c'est vrai que c'est ce cycle de trois mélodies dont cette pièce est un extrait est la dernière œuvre de Victor Ullmann. Donc il a écrit quelques mois avant sa déportation à Auschwitz, donc on imagine bien dans quelles conditions il a pu composer. Et malgré tout, cette pièce reste quand même pleine d'espoir, en fait. Je trouve qu'il y a un côté lumineux dans cette mélodie, et c'est pas pour rien qu'elle est restée aussi populaire et aussi célèbre ensuite. Donc c'est un contraste quand même assez fort avec ce qui était vécu à ce moment-là. Destin assez tragique, mais formation musicale quand même très complète. Également élève d'Arnold Schoenberg, comme ça avait été le cas pour Algazi.
Pour Léon Algazi, oui, tout à fait.
Donc on peut imaginer une formation musicale très, 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 très complète. Et Un destin tragique, oui, effectivement, effectivement, mais qui ne se perçoit pas à l'écoute de cet extrait.
Et alors, Victor Ullmann, lui, était en fait né d'un père juif, mais d'une mère catholique, donc il avait été plus ou moins converti, il s'était converti au catholicisme, et puis il revient vers son judaïsme dans le cadre de Térésine, et il est d'ailleurs, cette pièce aussi est dédiée, je crois, à un de ses condisciples qu'il admirait beaucoup, parce qu'il conservait la foi même dans ces conditions affreuses de vie qu'ils ont subies à Térésine. Et donc, il a écrit ces trois mélodies qui sont parfois dans un yiddish d'ailleurs assez hésitant, mais qui sont comme un hymne à cette culture juive qu'on est en train d'anéantir. Et alors, on va entendre maintenant une autre œuvre, enfin, on n'entendra pas, pardon, tout de suite une autre œuvre, mais dans votre disque, vous avez une œuvre également, des œuvres d'un autre compositeur, Simon Lax, qui lui aussi a été déporté à Auschwitz, qui a survécu presque miraculeusement pendant près de 2 ans à Auschwitz en dirigeant l'orchestre du camp de concentration. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'intitule « Mélodie d'Auschwitz » qui relate son expérience. Un autre compositeur de votre disque, Ernest Bloch, on en a parlé de lui,
oui.
Beaucoup plus connu peut-être que Simon Lax ou même que Victor Ullmann, a eu la chance d'échapper à cette période noire de l'histoire juive, mais de l'histoire en général, puisqu'il a émigré aux États-Unis dès 1916. Et Bloch est l'auteur d'une œuvre juive particulièrement importante. De 1912 à 1916, il a notamment écrit 3 poèmes juifs, 3 psaumes, une symphonie qui s'intitule Israël, Shlomo, cette fameuse rhapsodie hébraïque pour violoncelle et orchestre qui est vraiment rentrée alors là, dans le répertoire classique,
oui.
Qui est joué partout. Plus tard, il compose le Baal Shem, 3 tableaux de la vie racidique, une méditation hébraïque, enfin, et j'en passe, un service sacré. Et comme ça, il va composer jusque dans les années 50. Et je vous propose donc d'écouter une des pièces de ce cycle dont vous avez parlé tout à l'heure, qui s'intitule « From Jewish Life », de la vie juive, donc cycle de 3 pièces, qui a été créé en 1924 par le violoncelliste Hans Kindler. Et on va donc écouter la première de ces pièces, c'est une prière, « Prayer ».
Thank you.
extrait donc de la première pièce Prayer de Ernest Bloch, donc issu du cycle From Jewish Life, vraiment une très 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 belle musique. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que Bloch est souvent considéré comme le plus juif de tous les compositeurs.
C'est vrai.
Et alors que finalement, contrairement à Ravel avec le Kaddish ou Max Bruch avec le Kol Nidre ou d'autres encore qui s'inspirent vraiment, qui reprennent des mélodies juives utilisées, que ce soit dans la liturgie ou dans le folklore, Bloch, à ma connaissance, lui n'utilise pas de mélodies.
Il les invente. Oui, c'est incroyable.
Et ça sonne tellement, mais tellement juif, c'est incroyable. Et d'ailleurs, Bloch lui-même disait, moi, ça ne m'intéresse pas de... Ce qui compte, c'est l'âme juive. Et sa musique restitue totalement cette âme juive.
Absolument. Et ça, c'est vraiment de façon universelle, à tel point que ce cycle et cette prière qu'on vient d'entendre sont joués vraiment très, très souvent. Enfin, vous avez beaucoup, beaucoup de concerts. Alors ça, c'est un des premiers extraits qui soit vraiment écrit à l'origine pour violoncelle. Je pense que de toutes les choses qu'on a entendues jusqu'à présent, beaucoup étaient des mélodies adaptées, comme on l'a dit tout à l'heure, donc écrite pour la voix avec un texte. Et là, en revanche, il s'agit d'une pièce vraiment écrite originellement pour violoncelle et piano. Et je pense que c'est une des premières que nous ayons jouées avec Sarah. Et peut-être c'est une des pièces qui était vraiment à l'origine de ce projet discographique, en fait.
Vous avez bien fait de continuer. Alors, vous êtes, je crois, David Bismuth, fan de musique française. Oui. Vous avez enregistré plusieurs disques de compositeurs français, tels Franck, Forêt, Debussy, Ducas ou Rachmaninoff. Enfin, Rachmaninoff n'est donc pas français, d'ailleurs.
Et
Saint-Saëns. Mais on va parler maintenant d'un autre compositeur français, lui également, dont le judaïsme a nourri une grande partie de ses compositions. Il s'agit de Darius Milhaud, un sacré monument en lui-même, non ?
Mais absolument. Alors moi, j'ignorais totalement qu'il était juif, d'ailleurs, parce que cet aspect-là dans sa musique est quand même pas si fréquemment mis en avant. Moi, je connaissais surtout le compositeur de musique un peu coloré, avec des rythmes un peu foisonnants. C'est un compositeur qui a vécu en Amérique du Sud pendant quelques années, qui a passé beaucoup de temps au Brésil, et je trouve que ça s'entend dans beaucoup de ses pièces.
Ouais. Avec le bœuf sur le toit.
Oui, enfin, beaucoup de, on appelle polyrythmie, c'est-à-dire vraiment de rythmes très vifs et de musique comme ça très, très colorée. Et ma grande surprise a été, lorsque Sarah a découvert ses partitions, de voir qu'il y avait aussi un côté beaucoup plus intérieur et beaucoup plus attaché à la culture juive à travers ses mélodies dont nous avons enregistré des extraits.
Alors oui, effectivement, il était juif, il était même issu d'une grande famille. Les Milhaud, c'était une famille du comtat venaissin, très, très ancienne famille. Et lui-même se définissait comme français, né à Aix et de confession israélite. Donc, vous voyez, les trois attaches étaient français, il était vraiment de Provence, en fait, et de religion israélite, comme on disait à l'époque, qui pour lui était un élément important et constitutif de son identité. Ses parents étaient d'ailleurs musiciens amateurs et sa mère connaissait parfaitement la tradition des chants des juifs provençaux. Mais c'est vrai qu'il a écrit tellement d'œuvres.
C'est un catalogue incroyable.
Je crois que c'est lui qui est le plus prolifique de tous les compositeurs. C'est 443 numéros d'opus. C'est énorme.
C'est énorme. Pour le piano aussi, il a été extrêmement prolifique. Je crois qu'on n'a même pas... Enfin, si on commence à écouter tout ce qu'il a fait, il y en a pour des journées entières de musique. Donc oui, c'est très abondant.
Donc son œuvre plus spécifiquement juive est un peu noyée dans sa production et son inspiration musicale. Mais on pourra quand même citer ses poèmes juifs qui datent de 1916, l'opéra Esther de Carpentras, quand même, qui est une œuvre importante, 1925 à 1927, 6 chants populaires hébraïques encore en 1925, un service sacré très important en 1947, qui a été donné d'ailleurs à la Grande Synagogue de la Victoire, l'oratorio David composé donc à Jérusalem en 1955, et enfin, et c'est pas symbolique, sa dernière œuvre écrite, la cantate Anima Amin en 74, sur un texte d'Elie Wiesel qui raconte les horreurs commises à Auschwitz, Treblinka, Majdanek. C'est lui où, quand même, il avait perdu donc plus de 20 de ses cousins. Je vous propose donc d'entendre, toujours extrait de notre CD Mélodie hébraïque, un chant racidique de Darius Milhaud, donc extrait de ses 6 chants populaires hébraïques composés en 1925. Thank you. Nous venons d'entendre un des six chants populaires hébraïques composés par Darius Milhaud en 1925. Il s'agit du chant hassidique, interprété toujours par David Bismuth au piano, Sarah Yankou au violoncelle. Et cette mélodie hassidique va nous servir de transition avec l'œuvre d'un compositeur moins connu du grand public, mais connu des violoncellistes, m'a dit Sarah Yankou. Il s'agit de Joachim Stuchevski. Je me suis entraîné pour prononcer son nom quand même. Il est né en Ukraine en 1891 et c'est intéressant, il était issu d'une famille de musiciens klezmer. Donc il a appris la musique très jeune, dès l'âge de 5 ans en fait, et très rapidement il jouait dans les ensembles klezmer avec son père. Et puis après, il s'est tourné vers un apprentissage plus classique, dirons-nous, puisqu'il a étudié le violoncelle au conservatoire de Leipzig. Il est passé par Paris, par Iéna, et il s'installe à Zurich en 1914, où il continue à jouer des musiques traditionnelles juives. Et il rencontre notamment à Zurich le compositeur et folkloriste Joel Engel. En 1921, on le retrouve à Vienne, où il fréquente en fait les compositeurs de la seconde école de Vienne, c'est-à-dire Schönberg, Berg et Webern. Et dans le même temps, il est très impliqué dans un travail de composition et de recueil des musiques juives, puisqu'il cofonde la Société pour le développement de la musique juive à Vienne. Il écrit des articles sur la musique juive et collabore même au périodique sioniste d'Ishtimé, où il écrit dans la rubrique musicale. Et puis en 1938, après l'Anschluss, et peu de temps avant l'arrivée des troupes allemandes, il a la bonne idée d'émigrer en Palestine, où il continue à donner donc des conférences et des concerts. Et puis il s'installe donc en Palestine, qui devient donc à partir de 1948 l'État d'Israël. Et là, il se consacre presque exclusivement à la composition. Ses œuvres combinent donc un langage à la fois traditionnel, hassidique, ashkénaze, mais également séfarade et yéménite, le tout avec un langage musical moderne. Et puis c'était également un universitaire, il a publié des études et des transcriptions sur la musique hassidique, rédigé des biographies des plus grands musiciens klezmer. Alors il s'est éteint à Tel Aviv en 1982, âgé de 91 ans, en ayant été récompensé auparavant par de nombreux prix, le prix Engel, le prix d'honneur de la ville de Tel Aviv. Et sa suite hassidique pour violoncelle et piano, donc composé en 1946, comporte quatre mouvements, Bessarabic Song, Latvian Song, Nuts and Wine, Dance. Et nous allons donc entendre le dernier de ces mouvements. Il s'agit d'une danse hassidique, bien sûr. Un extrait donc de cette danse hassidique de Joachim Stuchevski. Alors, si vous voulez entendre l'intégralité, il faut vous procurer le disque. Mais je crois que vous vouliez dire un petit mot, David.
Non, j'aime beaucoup cette pièce, en fait. Et c'est vrai qu'avec Sarah, on a essayé d'avoir le plus de caractères différents, représentatifs de ce folklore, que ce soit la danse, que ce soit la prière, que ce soit le chant, que ce soit les berceuses. On a essayé vraiment de rassembler un maximum d'atmosphères différentes, autant que de pays d'Europe, d'ailleurs, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et comme on peut l'entendre, c'est vraiment, il y a des influences qui viennent de divers pays, que ce soit la France, la Russie, l'Espagne, l'Autriche. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de pays différents qui sont là, donc pour amener justement cette diversité.
Et en plus, donc, vous avez dans ce disque donc ces 30 mélodies, 13 compositeurs différents, donc ça contribue à cette diversité. Fernand Alphen, Léon Algazi, Ravel, Ullmann, Lax, Akron, Bloch, Mio, Stuchevski, Alkan, Inkulmel, Shostakovich et Brook. Donc on ne pourra pas tous les entendre dans cette émission, bien évidemment, mais on va essayer d'entendre encore quelques extraits. Moi, ce qui me fascine dans ce disque également, c'est quand j'entends le violoncelle de Sara Iancu, on l'a entendu encore tout à l'heure pour la pièce de... sur la pièce de Mio ou même d'autres pièces, elle a une façon de jouer très proche de la voix, on l'a dit, le violoncelle, vraiment, très proche, ouais. Mais de la voix juive en particulier, dans sa manière de juxtaposer des petits motifs mélodiques qui sont un petit peu la manière de faire des musiques juives, quand on cantile, quand on psalmodie, en fait, souvent, c'est des petits motifs mélodiques qui s'enchaînent. Oui, oui. Avec, et ça, elle le fait magnifiquement.
On sent que ça
bien.
Fait partie de sa culture et de son héritage musical, ça, je pense que c'est quelque chose qui ne s'apprend pas en revanche,
non.
C'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément enseigner, c'est on l'a ou on l'a pas, et je pense que là, c'est vraiment très présent.
Ah, c'est très présent et c'est superbe. Alors on va entendre maintenant un morceau de Dimitri Shostakovich. Dimitri Shostakovich qui n'était pas juif, mais qui en fait a composé cette pièce dans un but bien précis dont vous nous parlerez peut-être tout à l'heure. Il s'agit donc d'une pièce qui s'appelle Song of Misery, qui est extraite de son cycle de la poésie populaire juive. De Dimitri Shostakovich, un chant de misère. Alors, chant de misère, parce que Shostakovich, en fait, a écrit donc ses pièces dans un contexte bien particulier. Ce cycle de la poésie populaire juive a été composé en 1948, alors qu'une violente vague d'antisémitisme submergeait l'Union soviétique. Mais l'œuvre n'a été donnée qu'en 1955, 2 ans après la mort de Staline, et on comprend pourquoi. Et ça sonne, cette œuvre sonne comme un cri de rébellion contre la haine antisémite. Pour puiser son inspiration, Shostakovich avait déniché dans une librairie un petit recueil de chansons juives, dont il avait extrait 11 chansons qui composent ce cycle, qui ont une teinte plutôt sombre, à l'exception des 3 dernières. Et vous me disiez hors micro, David Bismuth, que si la mélodie effectivement sonne juive, l'accompagnement, lui, est complètement différent.
C'est un peu comme ce qu'on évoquait pour Maurice Ravel au début, c'est-à-dire qu'on reconnaît tout à fait la patte du compositeur, c'est-à-dire qu'on entend que c'est du Shostakovich, mais en même temps, ça reste tout à fait dans un cycle de musique juive aussi. À la fois, le mélange des deux, je trouvais, est très réussi. Et son écriture, en tout cas au piano, s'apparente tout à fait à ce qu'il peut écrire quand il écrit des concertos ou quand il écrit des choses qui sont hors de cette thématique. Donc, encore une fois, voilà, son propre talent s'est vraiment complètement confondu avec le thème qu'il voulait traiter à travers ce cycle.
Ok. Alors, on a dit au début de cette émission que vous abordiez également le versant, le répertoire judéo-espagnol, avec un compositeur que je ne connaissais absolument pas. C'était une découverte pour moi. Il s'agit de Joaquín Nin Culmell, qui en fait est le frère d'ailleurs de la romancière américaine un peu sulfureuse Anaïs Nin. Et Joaquin Nin Kumel, qui est un parcours qui est en fait est né à Cuba et après il a émigré en Europe. Il a appris la composition, mais il est vraiment issu de ce mélange en fait entre l'Amérique latine et l'Europe. Et il a composé donc en 1982, c'est pas si loin que ça, Seis Canciones Populares Sefardis. Alors je sais pas si c'est la bonne prononciation.
Bravo.
Voilà, qui veut dire six chansons populaires sefardis, qui sont dédiés à la mémoire de tous les martyrs juifs. Et pour cet hommage musical, donc Nin Kumel a utilisé des mélodies judéo-espagnoles, six mélodies judéo-espagnoles de diverses communautés, Salonique, Tétouan, les Balkans, etc. Et il a repris des thèmes souvent connus, comme par exemple la Rosa en Florence, Ya Salió de la Mar, Mi Suegra la Negra, ou encore Adonenu Eloenu, là c'est de l'hébreu, mais c'est utilisé aussi dans ce répertoire, Notre Seigneur, Notre Dieu, dont nous allons entendre dès à présent un extrait. De Joaquin Nin Kumel, Adonenu Eloenu. Mais si vous achetez le disque, encore une fois, et on va donner les références où acheter ce disque ou vous le procurer, vous pourrez entendre au moins trois autres mélodies judéo-espagnoles. D'ailleurs, ça dénote ou ça détonne un peu, et en même temps, ça fait du bien d'avoir des mélodies judéo-espagnoles dans votre disque.
Mais oui, ça fait du bien, puis ça complète un peu ce parcours. C'est un parcours autant géographique que culturel que musical, et donc c'était bien d'avoir un côté avec une touche comme ça, une touche hispanisante, qui reste dans ce thème, mais apporte une couleur et un rythme un peu différent.
Bon, eh ben écoutez, le temps passe vraiment très vite en votre compagnie, trop vite. On aura, comme je l'ai dit, pas le temps d'écouter toutes les mélodies de ce disque, que je vous encourage donc à vous procurer au plus vite auprès de l'Institut européen des musiques juives. Je vous redonne le téléphone, 01 45 82 20 52, 01 45 82 20 52. Plus de renseignements d'ailleurs sur notre site internet iemj.org, et profitez-en parce qu'il est actuellement à un prix exceptionnel de lancement de 10 € plus 2 € de frais de port jusqu'au 31 décembre 2016. Alors ça peut faire un très très beau cadeau de Hanouka. On va finir cette émission avec un morceau qui lui est très connu. Il s'agit du Kol Nidre de Max Bruch. On ne pourra pas l'entendre entièrement puisque c'est une pièce longue. Ce morceau a été composé pour la communauté juive de Liverpool en 1880 et on va l'entendre dans ses versions originales pour violoncelle et piano. Nous venons d'entendre le début du Col Nidré de Max Bruch, cette superbe mélodie qui reprend en fait la mélodie du Col Nidré, de la prière de Col Nidré. Vous vouliez dire quelques mots de
conclusion ?
Oui,
non, ça c'est vraiment la pièce maîtresse un petit peu du CD. On a entendu juste le début, mais c'est une pièce qui se développe beaucoup par la suite, qui passe par beaucoup d'états plus intenses. Et, autant beaucoup de pièces sont des mélodies assez brèves qui composent ce disque, autant là c'est vraiment un peu le plat de résistance, on peut dire, parce que c'est vraiment une pièce très intense et très développée, très écrite. Donc à l'origine pour violoncelle et piano. Et on est très heureux de l'avoir sur ce disque parce que c'est aussi une des pièces qui est vraiment à l'origine du projet. Puisqu'elle fait partie aussi du répertoire des musiciens depuis très longtemps.
Donc j'encourage encore une fois nos auditeurs à vous procurer ce disque. On va devoir s'arrêter là, notre émission se termine. Merci alors, infiniment à vous David
merci
Bismuth.
Beaucoup.
Merci de loin, on salue Sarah
écouter. On pense très fort à elle.
Merci pour nous avoir fait partager le meilleur de la musique classique juive. Retrouvez donc ce disque et cette émission de radio sur le site de l'Institut européen des musiques juives, donc www.iemj.org, ainsi que sur judaïkfm.com dans la rubrique podcast. Au micro Hervé Rotten, David, un autre David, mais aussi un bon David à la technique. L'Institut européen des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée, en musique bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Rotten sur Judaïque FM.
Sugar. I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey.